Alors bonsoir, nous sommes ce soir avec Sébastien Célestine.
Bonsoir.
Alors Sébastien, tu as été sélectionné pour participer à la French Touch. Alors je ne sais pas si c'est bien comme ça qu'on dit ça. Hein. Tu es le fondateur d'Olmall et tu fais pas mal de choses au niveau économique en Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours général et après on reviendra sur ta sélection et sur ta société Olmall, s'il te plaît.
Parcours général en termes de formation, etc. Ou,
oui.
Ouais.
Exactement.
Alors moi j'ai fait mon cursus jusqu'au lycée, jusqu'au baccalauréat, un peu comme beaucoup en Guadeloupe, donc à Cambridge. J'ai passé un bac scientifique. J'ai toujours été intéressé par le commerce, l'entrepreneuriat et j'ai monté ma première entreprise, on va dire, au lycée, en terminale d'ailleurs, l'année du bac.
C'est bien.
Ouais, dans le cadre d'entreprendre en lycée, alors c'était une mini-entreprise, c'était pas encore un truc très officiel. De la vente de téléphones en ligne, smartphones débloqués, etc. Donc ça, c'était en 2005. Mon bac, ça remonte. Du coup, je voulais pas forcément faire d'études. Mes parents m'ont convaincu que et je voulais continuer sur cette entreprise. Mes parents m'ont convaincu qu'il fallait malgré tout faire des études. Donc, je suis parti un peu par défaut dans une école d'ingénieur post-bac, donc à Compiègne, dans laquelle j'ai fait une année avant de me rendre compte que je voulais pas faire 5 ans pour avoir un diplôme d'ingénieur. Et donc, j'ai cherché une formation qui correspondait un peu plus à ce que je souhaitais faire. Donc, la partie gestion création d'entreprise. Et ensuite, du coup, j'ai fait une licence en gestion d'entreprise à la Chambre de commerce de Paris. Et ensuite, un master en marketing stratégique puis en gestion financière à Nanterre. Donc, Paris toujours. Et Olmall, en fait, donc ma première société officielle, on va dire. Donc, j'ai commencé à bosser dessus en parallèle de mes études. Donc, à la fin de ma licence, j'ai intégré un incubateur d'entreprise pour commencer à travailler là-dessus. Mm-hmm. Donc, c'était en 2009 et on crée la première structure, en fait, juridique dès 2009 et je continue, en fait, en parallèle de mon master. Et c'était assez intéressant, parce que du coup, ça m'a permis d'appliquer tout de suite
à l'entreprise.
Voilà, ce que j'apprenais en cours. Du coup, les cours étaient aussi plus intéressants.
Voilà. Bien, en tout cas, très bon parcours. Alors, pour Olmall, comment tu as vu qu'il y avait un manque? Comment tu as eu l'idée de créer cette fameuse société?
Sur Olmall, donc Olmall Technologies, le nom de la société. Donc, initialement, ça veut dire Olmall, ça veut dire All Music Online. Donc, ça c'est en lien avec l'idée première, donc Olmall Caribbean, qui était de fournir aux artistes et aux fans de musique caribéenne un lieu, un espace de rencontre, d'échange et surtout un outil qui leur permettrait aux artistes notamment de commercialiser leurs morceaux, c'était pas encore autant de streaming à l'époque, de commercialiser leurs morceaux, du merchandising, des places de concert, etc., etc. Et on a décidé de faire ça avec mon premier associé parce que on avait travaillé sur une compilation musicale caribéenne, donc dancehall, reggaeton, salsa, zouk, etc., avec des artistes d'un peu partout dans la Caraïbe. On avait même eu les Tioquets à l'époque. On avait fait un truc pas mal et lorsqu'on s'est rendu compte justement, on est arrivé à l'étape de commercialisation de ça, on s'est rendu compte qu'on avait le choix entre iTunes, Musique du Monde, qui donnait pas de visibilité et des toutes petites plateformes très spécialisées qui allaient parler par exemple de dancehall francophone de la Caraïbe et pas de dancehall jamaïcain par exemple, qui allaient pas parler de zouk et compagnie. Et il y avait pas une plateforme qui permettait de rassembler en fait les dizaines de millions de fans de musique caribéenne à travers le monde. Donc on avait décidé de créer cette plateforme. Donc on l'a mise en place avec de la musique, de la vente de billets, etc. Malheureusement, la partie vente de musique a été plus compliquée à gérer que prévu parce que les labels n'ont pas vraiment joué le jeu. Ils voyaient pas trop l'intérêt, alors qu'en parallèle, ils se plaignaient de pas avoir de revenus. Donc, nous, on n'a pas trop compris la réaction non plus. Et du coup, c'est la partie billetterie. Donc, soirée, concert, spectacle. On a commencé en vendant des billets pour des soirées au Rhythm à Paris, qui s'est développée. Donc, d'abord en Île-de-France et en partir de 2013, on a commencé à 2012-2013, on a commencé à venir travailler sur la Guadeloupe. Et là, on a constaté qu'il y avait un vrai besoin en termes d'outils de vente en ligne, notamment, parce que ça n'existait presque pas.
Oui.
Alors qu'à Paris, on était en concurrence avec la Fnac, Digitik, Ticketnet et compagnie. Et en fait, les gens prenaient l'information chez nous pour savoir ce qu'il y avait. Mais au moment où le pote disait, et au fait, il y a le concert de Sisla ce week-end, t'as déjà pris ton ticket, ben, le réflexe, c'était d'aller à la Fnac. Et comme
D'accord.
nous, on est dans une logique où on gagne de l'argent en fonction des ventes, ben, si on fait pas de vente, même si la personne a pris l'info chez nous, on gagne rien. Donc, on s'est du coup focalisé de plus en plus vers les Antilles Guyane, on n'avait pas ce problème-là, puisqu'on créait justement la solution et on devenait le réflexe. Et au fur et à mesure, on a développé et puis on a quitté Paris. Moi, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Paris et la Guadeloupe entre 2013 et 2017. Donc, installation définitive en Guadeloupe en 2017.
D'accord. Donc l'installation, elle est vraiment par rapport à l'application, c'était quand même un projet de vie de revenir
Non,
en
c'était
Guadeloupe.
déjà un projet de vie. Si c'était que moi, j'aurais été en
Tu serais
Guadeloupe
pas
depuis bien
parti.
avant. Alors, je ne serais pas parti si j'avais le choix, mais je pense que c'est toujours bien de partir découvrir d'autres
Oui.
choses. Je serais probablement revenu plus tôt.
Plutôt, d'accord.
Après, bon, les histoires personnelles font qu'on ne fait pas forcément tout comme on veut tout le temps.
Oui.
Et du coup, voilà, donc on a continué à développer cette société-là avec mes trois autres associés, donc cofondateurs sur Holmol Technologies, où donc on est quatre, enfin on était quatre initialement. Et pour grandir jusqu'à aujourd'hui, avoir une quinzaine de collaborateurs sur Holmol, voilà. Y être lauréat, comme tu l'as dit, French Tech 120 l'année dernière, donc parmi les 120 startups à suivre en national par rapport à la croissance qu'on a pu avoir durant les dernières années.
D'accord. Alors, avant qu'on parle vraiment de ce prix hein, que vous avez eu, on
Oui.
va parler toujours, pour rester dans ton parcours, de ton deuxième projet, parce que tu as aussi racheté la librairie en Guadeloupe.
Alors, je fais partie de collectif, on va dire, enfin de groupe de cinq jeunes entrepreneurs guadeloupéens. Effectivement, qui avons, on va dire, sauvé plus que racheté
D'accord.
la librairie générale, anciennement Jazor, qui allait fermer en fait suite à de grosses difficultés financières, puisque c'est une société qui n'a pas su se
Se
réinventer,
renouveler,
voilà, et qui a
exactement.
surtout gardé des niveaux de charge incompatibles avec ses revenus, puisque c'est une boîte qui a été montée en 1952. Elle va avoir bientôt 70 ans. Donc, il y a eu deux générations de Jazor à sa tête, le fondateur, le fils. Et bon, là, il n'y avait pas de troisième génération pour reprendre. Et donc, nous, on s'est positionnés. Et c'est une boîte qui, quand elle fermait, avait quasiment 4 millions de dettes. Donc, nous, on a dû se débrouiller pour mettre en place un fonds de financement là-dessus, pas trouver de banque locale pour prendre le relais, enfin, pour nous accompagner. Donc finalement, c'est la région qui nous accompagne plus. On a dû remonter jusqu'à l'Élysée, un organisme national qui finance tout ce qui est industrie culturelle, qui a participé au tour de table. Et puis des fournisseurs locaux et nationaux qui ont choisi aussi de nous faire confiance en recommençant à livrer de la marchandise, etc. Et tout
Alors, c'est
ça
vrai que vous.
assez rapidement, quoi.
Voilà, donc c'est vrai que cette librairie-là, vous l'avez bien transformée et c'est devenu, je ne vais pas dire un projet caraïbéen, mais c'est quoi le nouveau concept que vous mettez en place là?
Alors, ce qu'on a mis en place et qu'on a commencé à mettre en place progressivement depuis avril 2019, c'est une transformation vers une nouvelle entité donc, qui s'appelle Caribbean Culture House. Et l'objectif, c'est qu'on soit vraiment en fait, des lieux de vie, des lieux d'échange et que la population guadeloupéenne, dans un premier temps, et pourquoi pas ailleurs dans la Caraïbe par la suite, identifie cette entité comme étant vraiment le partenaire caribéen de la culture et du savoir. L'objectif, c'est que c'est, on fait des conférences, il y a des ateliers, on valorise des auteurs. Alors, pas forcément que autour du livre. Alors, c'est vrai que c'est une librairie, donc voilà, c'est déjà un lieu culturel, mais on a Chris, par exemple, qui a eu l'occasion de faire un petit concert chez nous en mode cadeau de Noël pour ses fans. On a fait des choses autour du développement économique et de l'autonomie potentielle en Guadeloupe avec des gens qui, par exemple, ont participé au Gong. Enfin, voilà, des gens qui ont une histoire assez riche à raconter, notamment sur l'histoire du pays. Et notre objectif, c'est de continuer ce qui était la vocation un peu plus à l'origine, lorsque le père Jazor a créé cette société, même si bon, on ne l'a pas connu, on n'a pas pu échanger avec lui, mais ce qui était décrit, c'était que ce lieu soit vraiment un bouillon de culture, un foisonnement, même au niveau sociétal, pour que la société, justement, guadeloupéenne puisse passer à une autre étape, à autre chose, et nous, on s'inscrit dans cette
Dans la
logique-là.
continuité.
Voilà.
D'accord. Vous avez aussi reçu la fille, alors la fille, je crois, voilà, de Malcolm X. Je cherchais le nom. Vous avez aussi reçu?
C'était dans le cadre d'un partenariat avec Roots Édition et Christelle, clairement, qui s'en occupe et qui fait de très belles choses. On est très content de travailler avec elle. Donc, c'était déjà prévu avant qu'on reprenne. Et d'ailleurs, de mémoire, ça s'est fait, on a repris à mi-avril et ça s'est fait au mois de mai-juin. Et c'était assez naturel pour elle, justement, de nous proposer de travailler avec elle. On était en plein travaux sur la librairie de Jarry. On a fait ça à la librairie de Pointe-à-Pitre. Bon, c'était pas optimal, mais c'était important pour nous de l'accompagner. Et l'objectif, justement, c'est que on soit le partenaire évident pour toutes les personnes qui ont ce type d'initiative. On a fait des choses dans le cadre du mois de l'Afrique, où il y avait un certain nombre de conférences qui se sont faites d'ateliers qui se sont faits à la librairie de Jarry, notamment. Là, on a ouvert sur Basse-Terre aussi, Caribbean Culture House directement, donc même pas librairie générale. Puisque les autres librairies vont devenir Caribbean Culture House assez rapidement, mais on a ouvert dans ce cadre-là. Et l'objectif aussi, c'est d'emmener de l'animation, du culturel, du sociétal aussi dans le Sud-Bast.
Bon, ben ça, c'est une excellente chose, en tout cas très beau parcours. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus amplement de la French Tech, alors, 120? Comment ça s'est passé? Comment vous avez été sélectionné? Comment vous avez eu l'idée déjà de vous inscrire premièrement? Et surtout qu'il y avait beaucoup d'entreprises à éliminer. Donc, comment ça s'est passé au final en France à l'Élysée?
Alors, il y a deux étapes. Donc, French Tech 120, on a été lauréat. Donc, c'était au tout début de l'année 2020. Donc, c'était un appel à candidature sur dossier. Il y avait plusieurs critères. Donc, c'était des critères de chiffre d'affaires, de croissance. Et puis, il y avait aussi une logique régionale. Donc, nous, on a su ça un peu en dernière minute d'ailleurs. Je crois qu'on a su ça peut-être 4 jours avant la date
La
limite
clôture.
pour déposer les dossiers. Donc, on a fait ça assez rapidement. Et on a eu ben, la bonne nouvelle au tout début de l'année d'apprendre qu'on était alors la seule entreprise anti-guyanaise, il y en a une de La Réunion aussi qui a été sélectionnée. Et c'est super parce que ça nous permet ben, déjà de montrer qu'il y a des choses qui se passent dans nos territoires sur tout ce qui est numérique, technologie. Puis ça nous permet aussi d'accéder à des réseaux, enfin des réseaux, à des personnes, notamment dans tout ce qui est institutions publiques, pour pouvoir faciliter, ben, par exemple, un certain nombre de démarches. Et puis, il y a une certaine visibilité qu'on a eue aussi grâce à ça, qui permet de simplifier un certain nombre de choses. Et par rapport à l'Élysée, donc je pense que tu parles de l'événement qui a eu lieu le 14 septembre. Donc, effectivement, à l'Élysée, où il y avait une prise de parole du président Macron à l'Élysée. Donc, c'était le premier événement qu'il faisait depuis le confinement. Donc, dans des conditions un peu particulières. Et ça, pareil, bon, ça s'est fait un peu en dernière minute, hein, parce que ce genre d'événement-là, c'est pas planifié 3 mois avant. Donc, on nous a appelé le mercredi ou le jeudi. On nous dit qu'il faut qu'on soit à Paris le lundi. Donc, on s'est débrouillé pareil ben, pour y être parce que ben, c'est toujours important pour nous de pouvoir, comme on dit, représenter, montrer qu'il y a des choses qui sont possibles. Et comme tu dis, encore à mon parcours, moi, j'ai payé, enfin, j'ai. Moi, je dis toujours nous. On a, parce qu'on est plusieurs et je ne suis pas le seul à bosser sur ces boîtes-là. On n'a pas hérité d'entreprise toute faite ou quoi que ce soit. On est plus, enfin, on est parti de zéro. Hein.
Oui, et vous avez
On
tout
a,
fait
voilà.
évoluer.
Alors, au niveau de l'entreprise, après, on a toujours un background, on va dire. On a des parents, on a des machins. On part jamais réellement de zéro, mais en termes d'entreprise, voilà, on partait de zéro. Et effectivement, c'est par rapport au travail qu'on a su fournir, à ce qu'on a su développer durant maintenant déjà quasiment 10 ans, depuis 10 ans, que ben, maintenant on est convié. Parmi une centaine de personnes sélectionnées dans toute la France pour assister à cette prise de parole du président qui présentait justement le plan de relance dans le cadre de la French Tech.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pendant cet événement? Il me semble que vous étiez avec le ministre Cédric O aussi pour tout ce
Oui.
qui est numérique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
Mais en fait, il présentait les mesures liées au plan de relance. Donc, alors, nous, on y est allé, comme je disais, pour le côté, voilà, montrer qu'on est présent et qu'il y a des boîtes de chez nous qui font des choses. Alors, on s'attendait aussi à l'aspect un peu networking, etc. Mais dans le cadre des conditions Covid, en fait, il n'y a pas eu
D'accord.
voilà, cette partie-là. Donc, ça a vraiment été la logique de prise de parole. Il y a eu des interventions, donc des questions de membres de l'audience. Il n'y en a pas eu beaucoup. Moi, je pensais prendre la parole, mais du coup, je n'ai pas forcément eu le temps. Après, même s'il n'y avait pas de networking officiel, moi, j'en ai quand même profité pour voilà, échanger avec quelques personnes d'autres boîtes qui sont bien développées, donc prendre des contacts qui vont nous permettre de travailler sur d'autres sujets voilà, dans les semaines et les mois à venir. Et ouais, on en saura, enfin, vous en saurez un peu plus prochainement. Voilà, on peut pas forcément.
Bon, ben, de toute façon, d'accord, comme d'habitude, on va suivre tout ça. En tout cas, c'est un super parcours et un super exemple pour nos jeunes. Est-ce que vous allez mettre quelque chose en place? Parce que je sais que vous faites beaucoup de transmissions. Vous transmettez, ben, ne serait-ce qu'à travers les événements ou les conférences que vous organisez. Est-ce que vous allez mettre un truc en place un jour pour les jeunes qui voudraient monter, faire une start-up ou bien se lancer dans le numérique? Est-ce que vous allez mettre des choses comme ça en place pour les aider, pour les accompagner ou pas?
Alors, on le fait déjà beaucoup de manière informelle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, ben, comme on a une certaine visibilité, qui nous sollicitent, qui nous posent des questions, voilà, et nous, on refuse jamais ben, d'aider.
Un coup de main.
Voilà. Après, moi, à titre personnel, je le fais depuis maintenant 2 ans à Fouillol, dans le cadre d'un cours avec des élèves de
Ah,
master autour de tout ce qui est
bien.
start-up et entrepreneuriat, où justement, ben, je partage mon expérience. C'est sur une quinzaine ou vingtaine d'heures de cours. Donc là, j'ai déjà fait 2 ou 3 promos. Ouais, 3. La prochaine va commencer bientôt, là. Mais bon, ça, pareil, je le fais, moi, à titre perso et à titre et bénévolement, parce que je pense que pour faire évoluer notre
Notre
pays, on va dire,
société, il
notre société,
faut des
voilà.
élites de toute façon.
Pas forcément des élites, mais il faut qu'on puisse se prendre en main et il faut qu'on soit
Oui.
dans un état d'esprit où on sait que c'est possible, justement. Et l'exemple que nous, on a créé aujourd'hui, donc avec Olmol, ben maintenant avec la librairie, il y a une autre boîte sur laquelle on bosse qui s'appelle MyEdTech, qui travaille sur tout ce qui est agriculture connectée. En fait, on est
D'accord.
dans des sujets sociétaux, mine de rien, même si ça n'a pas forcément l'impression. Et l'objectif, c'est de pouvoir modifier en profondeur nos sociétés et donner aussi envie à d'autres de faire. Et donc, pour répondre par rapport à la question sur le côté accompagnement de jeunes boîtes, donc, moi, je suis aussi investi un peu moins maintenant là, parce que j'ai moins de temps, mais dans Guadeloupe Tech, donc l'association des entrepreneurs du numérique, on va dire, en Guadeloupe, donc qui fait aussi cet accompagnement-là et qui a d'ailleurs été aussi lauréat au niveau des communautés French Tech pour le coup. Donc, c'est un peu les mêmes types de dispositifs, sauf que là, c'est vraiment pour les gens qui accompagnent. Et moi, avec d'autres entrepreneurs, on est en train de travailler justement sur la structuration de ce qu'on fait de manière informelle, pouvoir le faire de manière un peu plus formelle en termes d'accompagnement d'entrepreneurs. Donc ça, c'est pas tout de suite, mais
C'est un projet.
c'est clairement quelque chose qu'on fera dans les prochaines années. Et surtout pour apporter ce que nous, on n'a pas eu forcément initialement. Donc, avoir des gens qui savent, par exemple, comment développer du numérique de manière générale, les contraintes qu'il y a, comment ça se passe, etc. Donc ça, on veut emmener cette expertise-là, on veut emmener notre réseau sur la partie commerciale pour qu'ils puissent aller plus vite dans leur développement. Et potentiellement, si on arrive à réunir des fonds, ben, pouvoir aussi être un levier en termes de financement.
Bon, bah, franchement, super projet. Alors, par contre, j'ai entendu quelque chose qui me plaît. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'agriculture connectée?
Ben, sur Mighty Tech, en fait, donc c'est un des cofondateurs d'Olmol, ben, notre directeur technique, qui est issu d'une famille en fait d'agriculteurs, donc qui a grandi là-dedans. Et donc qui voit les difficultés en fait qu'avaient et qu'ont d'ailleurs toujours ses parents sur les exploitations agricoles, et qui s'est dit aujourd'hui, moi je fais de la techno, je sais ce que le numérique peut faciliter au niveau de ces exploitations, ben en gros on va le faire. Donc on a développé des systèmes de capteurs pour les animaux par exemple, pour savoir leur position, pour savoir leur température, leur pouls, est-ce qu'ils bougent ou pas, etc. On a développé des bornes météo. Donc comme ça, l'agriculteur peut savoir en temps réel s'il pleut ou pas, s'il y a du vent, enfin voilà, ce genre d'information-là, la température, et surtout avoir un suivi là-dessus. Et ben, typiquement sur la logique de la pluie, ben, on est en train de mettre en place un système où ben, s'il a plu pendant la journée, ça ne sert à rien de déclencher un arrosage. C'est du gaspillage. Voilà. Donc on travaille.
Surtout avec les problèmes d'eau.
Voilà. On a aussi une logique de traitement d'images aériennes avec des drones, où ben, on peut étudier justement au niveau des parcelles. Et par exemple, il y a des maladies qui attaquent les champs de canne, par exemple. Mais si la maladie part du milieu du champ de canne, sachant que c'est des choses en général qui sont en hauteur, donc si on est déjà sur un champ qui a des cannes assez élevées, c'est des choses qui sont invisibles quand on est au sol, qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Mais si on fait un survol de drone, on est capable de savoir que peut-être sur les 3 hectares de cannes, il y a déjà 500 mètres carrés dans lesquels il y a la maladie en question, que potentiellement, il faut pouvoir traiter, voire couper tout de suite avant que ça parte partout et que ça pourrisse tout le champ. Donc, on travaille sur tous ces sujets-là. Et l'objectif de ça, c'est permettre aux petites et moyennes exploitations agricoles de pouvoir être moins éprouvantes déjà pour les agriculteurs, leur consommer moins de temps. Parce qu'aujourd'hui, un agriculteur, il va tous les matins et tous les soirs quasiment sur son exploitation, ne serait-ce que pour vérifier qu'il n'y a pas de problème, qu'on lui a pas volé un bœuf, par exemple. Voilà, parce que
Oui,
c'est des choses aussi qui arrivent, qu'il n'y a pas une attaque de
qui arrive
chien,
très
voilà.
souvent.
Donc ça aussi, ben, du coup, s'il y a un problème que tous les animaux, par exemple, sont dans un coin de la parcelle, ben, on est capable d'envoyer une alerte pour dire, oh, là, il y a un souci.
Un
Voilà.
regroupement qui se
Au lieu de
fait,
venir tous les jours
d'accord.
pour voir ce qui se passe, ben, là, à l'instant T, il faut que vous soyez là dans les 10 minutes parce qu'il y a un problème. Donc du coup, ça leur fait économiser du temps. Ben, mécaniquement augmenter aussi leurs revenus parce qu'ils vont aussi dépenser moins d'intrants, moins de pesticides, etc. C'est améliorer la gestion de tout ça pour que le métier d'agriculteur aujourd'hui chez nous, et notamment l'agriculture vivrière, pas forcément l'agriculture d'exportation canne-banane classique, puisse être viable. Et que justement, on puisse se diriger de plus en plus vers une consommation locale et valoriser ces métiers-là parce qu'on en a besoin. L'objectif final,
Oui, on
c'est
en
ça.
a. C'est ce que j'allais dire. On a besoin, surtout en ce moment, hein, on est dans une petite période de crise là, avec les agriculteurs qui n'ont pas forcément pu s'en sortir avec l'histoire du Covid-19. En plus, ils n'ont pas d'eau, ils ont eu la sécheresse derrière. Enfin, c'était très compliqué pour eux. En tout cas, c'est super. C'est super. C'est un très beau projet. Et bien sûr, bien évidemment, il va falloir qu'on en parle aussi de ça en entier.
Pas de souci. Mais je vais convier Sébastien Luissin, qui est le président de MyDTech, qui est justement notre directeur technique chez Walmol, pour qu'il puisse en parler. Il a un parcours aussi super intéressant, donc je pense que ça serait bien que tu puisses échanger avec.
Parfait. Oui, avec plaisir, on va mettre ça en place. En tout cas, merci.
Merci à toi.
Et bonne fin de soirée. Au revoir à tous et merci d'avoir participé à notre podcast.